Alors l'idée, c'était d'aborder de façon un peu abrupte une très vieille question qui a présidé à la création de la revue Recherche et Formation, enfin pour le dire très vite, qui, d'une façon ou d'une autre, tout de même, fait question, je dirais à la fois pour les chercheurs de l'INRP, mais aussi bien pour les chercheurs qui se trouvent dans les IUFM. Je veux dire, cette articulation, toujours cherchée, plus ou moins atteinte, plus ou moins réussie, entre recherche et formation. Je dis les IUFM aussi parce que pour avoir eu à m'occuper de formation de formateurs dans un IUFM, j'ai bien constaté que ça n'allait pas de soi. Ça n'allait pas de soi que des enseignants-chercheurs des IUFM forment leurs collègues, puisque c'est souvent comme ça que les choses se passent, en utilisant les travaux scientifiques sur lesquels ils ont avancé. Et j'irai presque plus loin, ça ne va pas de soi lorsque c'est la même personne qui cherche et la même personne qui forme. Je ne suis pas toujours certain qu'elle arrive, par des opérations sans doute assez complexes, à faire le lien entre ceci et cela. En tout cas, c'est quelque chose qui ne se constate pas à chaque fois. Donc, j'ai proposé à deux collègues de l'INRP et un collègue qui n'est pas à l'INRP, qui n'a pas cette chance, mais bon, n'est pas fait. Donc, je commence par Jean-Pascal Simon. Je vous présente très succinctement, hein, et puis vous compléterez si vous en éprouvez le besoin, qui est maître de conférence à l'IUFM de Grenoble. Gérard Vidal, qui était nôtre jusqu'il y a très récemment, bon, qui, par un effet de rémanence, l'est encore un tout petit peu, et qui est à l'ENS Lyon, qui appartenait, enfin, qui était responsable d'une équipe d'INRP qui s'appelle Access, et puis Luc Trouche, dont on pourrait dire qu'il cumule les responsabilités, enfin, je ne sais pas si c'est la façon de le dire, mais qui est à la fois responsable d'Eductis et responsable du programme TIS, on peut dire comme ça.
Non.
Culture numérique. Ouais. Culture numérique et TIS. D'accord. Bon. Les règles du jeu sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord sont les suivantes. Je vais poser une série de questions. Ils auront chacun 5 minutes pour répondre. Ça nous laissera un peu de temps à la fin pour que vous puissiez, à votre tour, les interroger. Alors, première question sur la thématique que j'indiquais. Est-ce que... les uns et les autres parleront bien sûr de leur domaine, vous définiriez, vous pourriez décrire le type de recherche qui vous paraisse le mieux se prêter ensuite à une exploitation en formation, de formateurs. Voilà, qui veut commencer? Luc? Allez.
Bon, merci, je vais bien commencer. Je suis à l'INRP, donc responsable d'une équipe qui s'intéresse au rapport entre l'éducation et l'usage des TICE. Mais pendant longtemps, j'ai été directeur d'un IREM, et donc je parlerai d'un point de vue qui est d'un point de vue de didactique des mathématiques et un peu élargi à l'usage des environnements informatisés. Et cette formation des formateurs, je l'ai vécue pendant 6 ans comme directeur d'un IREM où il y a des formateurs et qu'il s'agit de former. Alors, quand on répond à des questions, on commence par questionner la question. Dans le titre de la table ronde, on indiquait le point de vue des chercheurs. Bon, je vais plutôt donner le point de vue d'un chercheur, car je pense que ces points de vue sont très divers.
Mmh. On parle du... Tu avais raison de faire remarquer que j'aurais dû écrire, mais à coup pas, le point de vue de chercheur avec un indéfini. On est d'accord.
Bon. Ensuite, je ne sais pas s'il y a vraiment un type de recherche utilisable en formation de formateurs. Et ma réponse, ça serait plutôt... Non. Et je ne sais pas aussi si on peut parler de recherche utilisable en formation de formateurs, comme s'il y avait des dispositifs spéciaux. Et en même temps, ça semble éliminer ce qui relève de la formation des formateurs eux-mêmes. Comment un formateur se forme, à travers quel processus? Alors, si je pars de mon expérience propre, puisque j'étais professeur de collège, de lycée, puis j'ai travaillé à l'université, j'étais formateur longtemps dans un IREM, et si je me dis qu'est-ce qui m'a vraiment formé, qu'est-ce qui a contribué à ma formation, quels ont été les moments clés ou les lectures clés qui m'ont ouvert ou questionné, qui m'ont fait progresser, je me suis livré à cet exercice dans le train ce matin et je voyais trois ouvrages assez différents. Un ouvrage d'Adamar sur la géométrie du cercle où il montrait quel avait été son itinéraire de chercheur. Il parle d'illumination, qu'est-ce qu'il a tout d'un coup fait progresser d'un pas de géant. Je me rappelle d'un livre de Vergniaud sur la conceptualisation. Et je me rappelle plus récemment alors d'un livre de Rabardel sur l'utilisation des instruments. Bon. Et donc je me disais que finalement, si j'avais à définir un type de recherche, est-ce que bon, on pourrait répondre. Quand j'ai vu cette question, je me suis dit oui, des recherches pour les formateurs en relation avec le terrain, qui viennent du terrain et qui y reviennent. Et je me dis que finalement, non, tout type de recherche peut être utilisé par les formateurs pour leur propre formation et peut être utilisé dans un dispositif de formation de formateurs. Et l'essence, alors bon, je botte en touche, mais pour repousser ma réponse aux questions qui suivront sur quel dispositif, quel contexte, quel processus peuvent être utiles pour faire, pour participer à la formation des formateurs. Et quand je regarde, j'ai répondu pour moi, quand je regarde les formateurs qui ont travaillé dans les équipes que j'ai suivies, je me dis que finalement, ce qu'ils ont fait progresser, c'est parfois des recherches très, très abstraites, assez loin du travail de formateur qu'ils faisaient sur le moment, mais que c'est dans ce long travail de perlaboration, pour reprendre le mot de Pastré, que les choses tout d'un coup se sont constituées en questions critiques qui a pu interroger leur pratique. Donc finalement, quel type de recherche, je pense que on peut pas y répondre, ni sur la forme, ni sur le fond. Des recherches qui questionnent pour un formateur en mathématiques, des recherches qui questionnent sa propre discipline, des recherches plus générales sur les dispositifs, sur les ressources. Il y a là probablement une grande variété de travaux de recherche qui peuvent être exploités pourvu que les conditions s'y prêtent. Et c'est cette question des conditions qui me paraît essentielle.
Merci. Jean-Pascal Simon.
Bien. Donc mon collègue disait qu'on commençait par interroger la question. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais déplacé la question. Mais c'est certainement dû à mon origine grenobloise.
Et les consignes, alors
c'est la différence entre le prescrit et le réalisé. Donc j'ai déplacé la question parce qu'il me semble que c'est peut-être en réaction, je dirais, à une idée que je pressens que la recherche est peut-être souvent perçue comme ce qui va dire le vrai, le bien, le beau. Et c'est en réaction certainement inconsciemment à cette position-là que j'ai peut-être déplacé cette question. Et du coup, j'ai plutôt répondu à une question sur les types de recherches qui sont utilisables en formation, mais aussi que ce soit en formation initiale d'enseignant ou en formation continue d'enseignant, qui est la formation du coup de formateur, puisque je m'appuie sur deux expériences que j'ai vécues à Grenoble. C'est l'expérience du mémoire professionnel. Donc on a autour du mémoire professionnel des professeurs d'école, parce que c'est surtout ce type de mémoire que j'ai dirigé, on s'est posé des questions de l'articulation de la recherche, de la formation, de la théorie et de la pratique. Et puis d'une expérience de formation professionnelle des instituteurs maîtres formateurs qui donc ont dans leur cursus à réaliser aussi un mémoire professionnel. Et au centre ces travaux de mémoire, il y a forcément et très souvent arrive la question de la recherche. Est-ce que c'est un mémoire de recherche, pas un mémoire de recherche ? Un mémoire universitaire ou pas universitaire. Et tout cela est souvent abordé avec la représentation la plus répandue que l'on ait, que sont la recherche et le chercheur. C'est-à-dire que la recherche, c'est en général quelqu'un... Le chercheur, c'est quelqu'un qui est en blouse blanche dans un laboratoire, et bien moins souvent un ethnologue qui est sur le terrain. Et puis que les méthodes de recherche, c'est plutôt du côté de la méthode expérimentale telle que Claude Bernard l'avait définie, avec des hypothèses, des expérimentations, etc., etc. Il me semble que c'est vers d'autres types de démarches de recherche, si on veut qu'elles soient profitables, me semble-t-il, en formation, vers lesquelles il faut se tourner. Et d'abord, l'objectif du mémoire, c'est un objectif de construction de connaissances de la part de celui qui le réalise et je dirais, il est lui-même destinataire de cette construction de connaissances. Alors, il ne le fait pas tout seul, mais c'est ça l'objectif du mémoire. Il faut être clair, je pense qu'un mémoire professionnel, c'est un mémoire qui vise justement, on parlait tout à l'heure, le développement de compétences qui vont l'aider à sa professionnalisation. Donc, il me semble que l'expérimentation, en tout cas avec les représentations qu'on en a, ça me semble pas une démarche, ça me semble une démarche somme toute réductrice à bien des points de vue. Et ce que je proposerais plutôt, c'est plutôt une démarche de recherche de type compréhensive. On a parlé tout à l'heure d'ethnométhodologie. Donc, il me semble que plutôt de dire qu'un mémoire professionnel doit conduire à une expérimentation, moi, je dirais qu'un mémoire professionnel doit conduire à un recueil de données à partir desquelles on en tirera des observables qui seront analysés, décrits et synthétisés. Et il me semble que ces données, elles doivent être recueillies dans une situation que je qualifierais d'écologique, c'est-à-dire dans un terrain de classe ordinaire ou en tout cas aussi proche d'un terrain d'un terrain qui pourrait être ordinaire, même si sous certains aspects il y a des choses un petit peu moins ordinaires ou extraordinaires qui s'y passent. Et il me semble que l'objectif de formation en formation initiale, c'est d'aiguiser le regard des futurs maîtres sur ce qui se passe dans la classe et ce qui se passe plutôt du côté de l'élève. Parce qu'il me semble que dans la formation initiale, c'est là aussi peut-être aussi prendre le contre-pied d'une tendance qu'on a quand on est enseignant en formation initiale, c'est de se regarder avant de regarder les élèves. Et j'ai l'expérience d'une visite de stagiaires en classe où je me suis vite rendu compte qu'elles n'ont jamais, pendant l'heure où j'ai assisté à leur séance, regardé les élèves, mais regardé ce qu'ils avaient, les objets qu'elles avaient sur leur table, leurs feuilles, etc., et qui n'ont pas vu qu'au fond, il y en avait un qui était debout, l'autre qui écoutait pas, etc. Et quand je leur ai dit, si je leur avais demandé de raconter ce qui s'était passé, elles m'auraient pas du tout raconté ce que moi, j'avais raconté. Voilà. Donc ça, en formation initiale, il me semble que la question à laquelle la recherche pourrait aider à répondre, c'est un élève, comment ça marche ? Pour reprendre la célèbre question de Michel Chevalet dans les émissions de télévision. En formation continue, il me semble qu'on peut se décaler un petit peu. Et il me semble que là, on peut prendre en formation continue différents objectifs et envisager de s'interroger sur le fonctionnement d'un dispositif pédagogique de manière plus globale, en essayant d'en voir les effets, si on est dans des situations qui s'y prêtent un petit peu davantage, d'en prouver l'efficacité. Et puis, autre type de mémoire professionnelle, me semble-t-il, en formation continue, et on en a aussi beaucoup parlé ce matin, c'est de faire le point sur ces pratiques, et je dirais de théoriser ces pratiques, et d'essayer de, justement, partir de sa pratique pour essayer de mieux la comprendre et de mieux l'interpréter. C'est ce qui a été dit ce matin sur peut-être un renforcement des effets formateurs du travail. Et ce serait peut-être là, en formation continue, le rôle que pourrait avoir la recherche. Voilà, pour l'instant, je m'arrêterai là sur cette question.
Non, merci. Gérard Vidal. Alors,
je pense que je vais donner un point de vue qui est complètement externe à ce qui a pu être donné jusqu'à maintenant. En effet, je viens du monde de la recherche scientifique fondamentale. Et j'ai migré vers l'INRP pour essayer justement de voir comment on pouvait faire un lien entre cette recherche scientifique fondamentale et puis la formation et ce qui peut être transmis aux élèves, enfin d'abord aux enseignants et ensuite aux élèves. En fait, moi, je ne me suis pas trop posé de questions sur la question. Je suis très obéissant et j'ai essayé de trouver des réponses à ta question.
Merci.
Et en fait, pour ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a essentiellement trois choses qui sont le quotidien de la recherche et qui mériteraient d'être beaucoup plus valorisées lorsqu'on essaie de former des formateurs. Le premier point, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, on a une très forte agression de l'information, une augmentation très rapide de la quantité d'informations disponibles et disponibles pour tout le monde. Et les sciences de l'information sont en train de travailler, d'avancer, de faire des découvertes, de proposer des solutions. C'est souvent un peu extérieur à nos disciplines, à notre travail quotidien, au cœur de nos formations, mais c'est quelque chose qui devient très rapidement capital dans le travail d'un enseignant. Parce qu'en face de lui, il a des élèves, il a des parents, il a des chefs d'établissement qui sont préoccupés, qui sont alertés, qui sont sollicités, soit par directement l'actualité que l'on peut avoir par les médias de masse, soit par les collectivités territoriales qui poussent des initiatives. Et l'enseignant, ben, souvent, il se trouve dans un état de désarroi face au manque d'information et au manque de pertinence de l'information dont il dispose. Et je crois que là, il y a des travaux de recherche, il y a des axes de travail qui mériteraient d'être beaucoup mieux intégrés, d'être beaucoup mieux vus par des enseignants, qu'ils soient en formation initiale et surtout en formation continue. Parce qu'un autre problème fondamental auquel on est confronté, c'est qu'une fois que la formation initiale est terminée, du point de vue des sciences, ben pour certains de nos enseignants, c'est la fin de l'intérêt pour les sciences. Et je crois que être capable de savoir tirer des résultats de la recherche, des méthodes, des outils, des savoir-faire pour traiter de l'information, c'est quelque chose qui serait capital. Le deuxième axe, c'est vraiment un axe qui recoupe le précédent, mais sous une autre forme. C'est que mon arrivée à l'INRP a fait que je suis resté un petit peu à cheval, comme l'a dit Michel, entre deux établissements. Un établissement de recherche scientifique fondamentale, qui fonctionne à la publication dans les très grandes revues internationales, et un établissement ici qui se préoccupait de recherche pédagogique et d'avancée, de modification des pratiques. Et au bout du compte, d'un côté, on rencontre des gens qui vous voient arriver, qui vous disent ben, « va leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent de dire que la Terre est creuse, bon, okay. Ou que l'intérieur de la Terre est liquide. » Bon, très bien. « Va leur dire qu'il faut changer les programmes. » Et d'un autre côté, on a des gens qui disent « on aimerait bien faire, mais on n'a pas de ressources. » Et en fait, ça rejoint la question initiale que tu as posée d'une articulation possible. On a, du point de vue des sciences fondamentales, des gens qui souhaitent transmettre des informations et qui ne le peuvent pas. Et d'un autre côté, des récepteurs qui sont prêts à l'accueillir, mais qui malheureusement ne sont pas réglés sur la bonne fréquence. Et je crois que là, il y aurait quelque chose qu'on verra peut-être dans les autres questions qui seront posées. Mais il y a un souci certainement dans la formation des formateurs, allumer ces capteurs, faire qu'au cours de sa vie d'enseignant, l'enseignant puisse avoir une antenne qui reçoit ce qui vient de la recherche fondamentale scientifique et que tout au long de sa vie, il soit capable de changer son point de vue, de changer ses connaissances, de transmettre finalement l'évolution de la recherche scientifique et que ça soit pas un monde à part, le chercheur fou avec sa blouse, ses cheveux hérissés qui est au fond d'un laboratoire. Je pense que c'est assez néfaste. Et le troisième point, c'est que dans la recherche scientifique, quelle qu'elle soit, il y a des démarches dites scientifiques qui sont un ensemble finalement de choses. Alors on parle toujours de Claude Bernard et de l'ensemble des protocoles qu'il a mis en place, mais je crois qu'aujourd'hui, différents types de recherches mettent en place différents types de protocoles. Et ce sont ces choses-là, finalement, on ne les voit pas parce qu'elles sont masquées par les résultats. Et une des choses, je crois, que la recherche devrait faire passer, c'est de se dire que ce qui est le plus important, c'est pas la réponse, mais c'est la question. Et que lorsqu'on a une question, la deuxième chose la plus importante, c'est de savoir si on est capable d'écrire un protocole pour répondre à cette question, ou du moins pour essayer de la traiter. Et je crois que là, on a une carence majeure, c'est que souvent, on transmet les résultats de la recherche, et on transmet très mal les méthodologies de la recherche et les protocoles ou les démarches de la recherche. Donc voilà un petit peu les trois réponses que je voulais donner. Et pour finir, je reprendrai ce que tu as dit. Moi aussi, je crois que j'ai été très influencé par finalement mon parcours. Et tout ce que je vous ai dit, c'est un souci qui m'est venu lorsque j'ai enseigné en collège. Et le jour où j'enseignais en collège, la nuit, j'essayais de passer des concours de recrutement du supérieur. Et d'un côté, j'étais dans un labo de sciences de la vie et de la terre où il y avait quasiment rien. J'étais dans la banlieue nord parisienne, il y avait rien. Il y avait des collègues qui étaient restés à leur formation initiale. Et moi, j'arrivais en sortant d'un labo où on avait les dernières nouvelles, on avait les dernières nouveautés. Et je me suis dit depuis ce moment-là que d'une façon ou d'une autre, il fallait contribuer à boucher ce hiatus, d'où un peu cette obsession. Voilà, donc je m'excuse.
Bon, c'est une obsession qu'on peut dire, hein, il n'y a pas de problème. Tu m'as fourni la transition avec l'idée que l'important c'était les questions. Je pose donc une seconde question. Une chose sur laquelle on est à peu près d'accord, en général, on verra bien, c'est que si le chercheur se livre à une activité de formation, il va être amené, d'une façon ou d'une autre, à se décentrer. Les sociologues parlent de traduction, d'autres parlent de reproblématisation. Enfin, en gros, il est amené à passer tout de même d'une logique qui trouve ses fondements dans une démarche scientifique une logique qui soit propre à déboucher sur de l'action, pour dire les choses de façon assez simple. Alors comment est-ce que vous caractériseriez les uns et les autres ce changement de point de vue qui forcément s'opère dès lors qu'on passe du champ de la recherche au champ de la formation? On va peut-être prendre en ordre inverse, Gérard. Tu continues ?
Oui, alors sur cette question-là, effectivement, je suis devenu extrêmement prudent et circonspect parce que je me rends compte que la personne qui souhaite faire ce changement, même si elle y met la plus grande bonne volonté possible, souvent elle ne dispose pas des clés suffisantes pour y parvenir. Et je reprendrai l'exemple de nos chercheurs. Nous avons des chercheurs de très grande bonne volonté qui souhaitent que les résultats de leur recherche passent, qui souhaitent que l'enseignement évolue et s'attaque à de nouveaux problèmes, de nouvelles problématiques, que les programmes changent. Et en fait, quand on essaye de les confronter à des populations de jeunes enseignants en formation ou d'enseignants en formation continue, on se rend compte que finalement, après 3 ou 4 ans d'expérience, on passe un tamis et il ne reste plus qu'une ou deux personnes connues nationalement qui sont les gens qui savent faire passer. Et en fait, on peut s'interroger sur le fait de savoir est-ce que c'est un problème de formation de ces gens-là, est-ce que c'est un problème de discipline. Et au bout du compte, en ayant un petit peu regardé ça suite à l'invitation de Michel, j'ai l'impression que c'est simplement une aptitude personnelle. J'ai l'impression que de nos chercheurs fondamentaux, il y a certains qui peuvent, et il y en a d'autres, ils ne peuvent pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce changement de posture pour passer d'une logique de recherche à une logique de formateur est quelque chose qui est extrêmement difficile et qui requiert des capacités qui ne sont pas forcément listées, pas forcément décrites. Et de ce que j'ai pu constater, j'ai l'impression que on l'a ou on ne l'a pas. Et moi, je dirais un petit peu que pour ce qui concerne les choses que je connais un petit peu, c'est quelque chose qui relève de l'utopie à des exceptions près. Un chercheur, il sait parfaitement bien faire sa recherche, il sait communiquer sur sa recherche et il sait rendre sa recherche accessible. Mais une fois qu'il a fait ça, il a beaucoup de mal pour faire l'étape suivante qui est de communiquer ce qu'il a rendu accessible à des enseignants, se placer donc dans une situation vraiment de formateur. Et en fait, je pense que pour ce qui concerne l'enseignement, le monde de l'enseignement, je suis maintenant convaincu que ce changement de posture est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. On a forcément besoin de relais, qui soient des relais qui soient dans l'autre sens, c'est-à-dire des gens capables de recevoir un message simplifié, et à partir de ce message simplifié, de construire des choses qui soient adaptées aux besoins. Donc voilà un petit peu c'est cette chose-là. Et sur ce que tu disais à propos de la traduction ou de la reproblématisation, je pense effectivement qu'il y a des questions à se poser, mais là aussi, je crois que c'est des questions à plusieurs niveaux. Les problématiques de recherche sont finalement très éloignées des problématiques d'enseignement. Et ce niveau de reproblématisation, je ne crois pas là non plus qu'un chercheur seul qui sort de son laboratoire, même avec la meilleure volonté, puisse y arriver. Donc moi, je serais plutôt dans une logique de se dire, OK, il faut que le chercheur fasse un effort, mais malheureusement, il n'arrive pas jusqu'au bout de son public.
Donc tu prêches pour l'existence d'un corps intermédiaire, si je puis dire.
Je ne sais pas s'il faut un corps.
Chargé de cela.
Je ne sais pas s'il faut un corps. Moi, je suis convaincu qu'il faut une mission. De là à en faire un corps, je ne veux pas m'avancer. Il y a des conséquences graves derrière, mais je suis certain qu'il y a une mission.
Non, je ne parlais pas de statut. Ouais.
Non, mais bon, il y a une mission, ça, j'en suis convaincu.
Merci, Jean-Pascal.
Oui. J'étais surpris. Ce qu'a dit mon collègue en disant que passer de la posture de chercheur à celle de formateur était quelque chose de difficile. Alors, c'est pas quelque chose que je ressens personnellement. Alors, il y a deux solutions. Soit j'ai résolu le problème, soit je suis ou pas chercheur ou pas formateur. Donc, je sais pas quelle est la solution. Il me semble, pour y réfléchir plus sérieusement, il me semble que si je rencontre pas ce problème... je suis en sciences du langage. C'est effectivement du fait... de l'objet de ma recherche, c'est-à-dire que faire de la recherche en didactique, c'est déjà moins éloigné de la salle de classe que de la recherche fondamentale en biologie. Et puis c'est le fait d'être et de n'avoir été que, ou pratiquement que, chercheur, enseignant-chercheur en IUFM. Et je pense que, et ça, ça n'a pas été non plus problématisé. C'est quoi un enseignant-chercheur en IUFM? C'est la question que j'ai posée à Bernard Cornu au bout d'un an. J'étais le directeur de l'UFM de Grenoble, qui a fait partie de la commission Bancel, etc., pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et il m'a dit, j'ai dit, qu'a voulu le législateur? Il m'a répondu quelque chose du style, rien du tout, ou il ne le savait pas. Et du coup, c'est une question qui m'a tarabusté pendant quelques années. Enfin, donc c'était en 92, hein, on est en 2007 et je commence à être un petit peu clair sur quel est mon métier, est-ce que ce que je dois y faire. Et il me semble que la création d'un corps intermédiaire, c'est un petit peu comme la grue qui doit monter la grue, qui montera la grue, qui montera la grue. Et il me semble que c'est peut-être moins d'un corps intermédiaire qu'on a besoin que de lieux intermédiaires où des gens de statuts différents, de fonctions différentes, de missions différentes se rencontrent pour échanger autour de problèmes de didactique du français pour ce qui me concerne, mais de didactique des mathématiques, des sciences, de la physique, etc. Et c'est peut-être ces lieux qu'on avait voulu quand on a créé, enfin, la loi de 89, en créant les IUFM et voulant qu'ils soient réunis dans un même établissement des gens au statut, cette fois-ci au statut professionnel très différent, professeur des écoles, instituteur, maître formateur, enfin c'est pas tout à fait un statut, mais voilà, professeur de collège, de lycée, certifié, agrégé et enseignant-chercheur. Et il me semble que c'est dans cette confrontation qu'on arrive, je dirais, mutuellement à trouver sa place et à mieux se comprendre. Et c'est vrai que qu'est-ce que ça change pour un enseignant-chercheur formateur? C'est déjà accepter aussi de repartir avec plus de questions que de réponses qu'on pensait apporter quand on rencontre des gens, entre guillemets, du terrain. J'aime pas beaucoup ce terme-là. Mais c'est vrai, quand on va travailler avec des conseillers pédagogiques et des inspecteurs, ils nous disent, venez donc nous parler de la grammaire. Il y a des problèmes pour enseigner la grammaire aujourd'hui ou la lecture, puisque ça a été... Et puis quand on repart, en fait, on a plus de questions que de réponses. J'espère qu'on a co-construit des réponses, mais je crois que c'est ça, c'est ce rapport au savoir et aux connaissances. Et puis utiliser, alors je reviens à la question des mémoires professionnelles, utiliser la recherche comme moyen de formation, c'est aussi, du côté du formé, que ce soit en formation initiale ou continue, les faire bouger dans leur rapport au savoir et à la connaissance. C'est-à-dire que quelqu'un qui prépare le concours, on va lui dire ce qu'il doit aller lire. Puis jusqu'en licence, c'est ce qu'on lui a dit. On lui a donné des bibliographies, on lui a dit voilà. Et dès qu'on passe, je dirais, de l'autre côté, qu'on a questionné sur un problème d'enseignement-apprentissage, on peut pas lui dire, moi, quand les étudiants me disent « Mais qu'est-ce qu'il faut que je lise en bibliographie ?» Je dis « Ça dépend de ta problématique, ça dépend de la question que tu te poses. » Et c'est, on peut pas faire la bibliographie à la place d'un étudiant qui fait un master ou un mémoire professionnel. Donc, là, c'est des savoirs qu'ils vont choisir et ils vont devoir assumer leur choix. C'est-à-dire que dans le cadre théorique, s'ils aient un cadre théorique dans leur travail, c'est pas l'état de la question, c'est les points qui me permettent d'éclairer la question que je me pose. Et puis, la posture que ça fait changer aussi en formation initiale et continue, c'est, bon, on oppose théorie et pratique. Alors, je sais pas opposer théorie et pratique. Il me semble que c'est deux pôles qui doivent coexister. Moi, j'opposerais plutôt théorisation à pragmatisation. C'est-à-dire que le stagiaire en formation initiale, il doit opérer un passage de la théorie vers la pratique, donc il doit pragmatiser ses savoirs. Et je dirais, en formation continue, les enseignants qui préparent le CAFIPEM, pour être maître formateur, sont, comme disait Henri Desroches, riches d'expériences acquises, et le temps des études, pour eux, est assez loin, et ils doivent partir de leur pratique pour essayer de rethéoriser leur pratique. Et je crois que là aussi, il y a un changement de point de vue. Et l'enseignant-chercheur, qui est quelque part toujours coincé, à mon avis, en tout cas quand il est formateur en IUFM entre les deux, peut aider à ce moment-là à ce que la recherche ait une place en formation professionnelle.
Merci. Luc.
Oui, enfin, je me rends compte qu'on répond à différents niveaux.
C'est très bien comme ça.
Très bien. Les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes si on parle de la formation des enseignants ou de la formation des formateurs.
Bien sûr.
Pas tout à fait pareil. La transposition des résultats de la recherche. Alors, on peut parler de recherche fondamentale, de recherche qui concerne la discipline, comme l'a fait Gérard, ou des recherches en matière de didactique, ou des recherches en matière d'environnement numérique. Alors, moi, je vais essayer de répondre sur la formation des formateurs. Et en matière de recherche, bon, j'ai travaillé pendant 5 ans, 6 ans dans un laboratoire de maths, et j'ai vu comment toutes ces questions de recherche Concernant la discipline même de recherche scientifique, de recherche sur la didactique et de recherche sur l'évolution des environnements et donc la conception et les usages de ressources numériques, comment tout ça s'est lié en fait ? Et on ne peut pas vraiment le détacher. Et comment le traiter ? Ben, j'ai envie de dire que je vais me situer peut-être à l'exact opposé de Gérard Vidal, peut-être. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas partir...
Pourquoi croyez-vous qu'on vous ait choisi ? Bon.
On ne peut pas partir... Pourtant, on a une expérience qui est largement commune, enfin, comme parcours professionnel, mais les parcours ne sont pas... ne déterminent pas forcément tout ce qui va se construire. Je pense qu'un modèle transmissif, ça ne marche pas. Ni pour les résultats de la recherche... ni pour les résultats de la recherche scientifique disciplinaire, ni pour les résultats de la recherche en didactique, ni pour les recherches concernant les usages dans le domaine des EIH. Des environnements informatiques pour l'apprentissage humain. Bon, disons, tout ce qui relève de la conception et du rapport entre conception et usage de ressources et d'environnement informatique. Quand je dis que c'est une conception transmissible, ça ne marche pas. C'est-à-dire que je pense que même si on envisage des corps intermédiaires, etc., tout ça, ça ne marchera pas. Et je pense aussi qu'il n'y a pas, on n'est pas, je ne sais pas, je suis pas aussi déterministe que Gérard en disant il y a des gens qui savent faire, des gens qui ne savent pas faire. Tout ça, ça se construit. Et je dirais, ça se co-construit avec les différents acteurs impliqués, que ce soit les formateurs ou les chercheurs, enfin, les frontières étant ténues entre les deux, étant d'ailleurs mouvantes. Je vois pas pourquoi en formation de formateurs on pourrait pas penser de la même façon qu'aux autres niveaux. Alors on passe pas d'un niveau à l'autre aussi simplement, mais quand on parle du professeur dans sa classe par exemple, je partage assez l'avis d'Alain Mercier sur l'idée de co-construction, d'action conjointe du professeur et des élèves dans la classe et de la participation des élèves à l'enseignement. Bon, en matière de formation des maîtres, bon, l'idée de formateur compagnon, surtout en formation continue, c'est des choses qui sont fortes. En tout cas, on a vécu je l'ai vécu dans l'IREM et quand on a travaillé dans la formation des maîtres. Toutes les stratégies de transmission de ressources expertes à des enseignants, bon, ça ne marche pas. Les formateurs experts de l'IREM sont vite rendus compte en matière de TICE qu'il fallait partir de ressources assez élémentaires et construire des ressources qui seraient conformes aux attentes et aux besoins des enseignants et dans ce mouvement même poser d'autres questions peut-être plus complexes. Alors, en matière de formation de formateurs, je voudrais donner deux exemples qui m'ont paru très riches. Un exemple local, ce qui s'est fait dans l'Académie de Montpellier dans un dispositif de conception collaborative de ressources qui s'appelait le SFODEM et qui a duré pendant 6 ans. Parce que tu parlais tout à l'heure des lieux, il y a la question des lieux et des temps qui sont des questions importantes, et je pense que pour voir des choses, il faut les voir sur le temps long, des processus, des genèses professionnelles, des genèses identitaires. Et pendant 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'agissait d'intégrer les TICE dans les enseignements de mathématiques. Donc il y a eu des formateurs qui se sont impliqués dans un dispositif où il y avait différents thèmes de formation. Bon, sur l'algèbre, enfin des thèmes liés au secteur mathématique, aux environnements. Et donc les formateurs ont fait leur travail de formateurs dans des groupes, dans 5 groupes. Il y avait 20 stagiaires à peu près par groupe et 2-3 animateurs dans chaque groupe. Et c'était une formation continue au sens propre, c'est-à-dire qu'il y avait des séances en présentiel, puis ensuite des séances à distance, enfin une communication continue entre les formateurs et les stagiaires. Et ensuite, il y avait, pour coordonner tout cela, ce qu'on appelait une cellule de formation, l'ensemble des formateurs qui se réunissaient assez fréquemment, au début chaque semaine, puis tous les 15 jours, avec des chercheurs en didactique, des mathématiciens et des informaticiens. Enfin, je dis il y avait un de chaque catégorie, puisqu'on était 3. Et au départ, il n'y avait pas de solution toute construite. Quel devait être le format des ressources, quels devaient être les outils de la formation, les outils de régulation. Bon. Et petit à petit, les réponses didactiques, les réponses aussi mathématiques, ou les réponses sur la conception des environnements, sont venues des problèmes rencontrés par les formateurs dans leur travail de formateur. Et ça a mené à toute une réflexion sur les outils, c'est-à-dire pour répondre aux attentes des enseignants, quels outils construire, on a construit des baromètres, et donc quelles questions pertinentes poser, comment analyser les ressources qui étaient faites, comment les, quelle était la meilleure structure des ressources, donc il y a tout un travail là-dessus, et petit à petit ils sont posés des questions qui n'étaient pas des questions au départ, mais qui étaient des questions théoriques à des niveaux différents. Par exemple, on parle de communauté de pratique, mais c'est quoi une communauté de pratique? Est-ce que ce qu'on construit, ce sont des communautés de pratique? Donc un travail théorique de lecture, mais les lectures étant conçues, étant senties nécessaires pour approfondir une pratique, des questions posées par la formation elle-même. Quand on construit des ressources, bon, on s'aperçoit bien que si on veut faire un scénario, ben, le scénario n'est pas unique, il va devoir varier, donc on va s'intéresser aux variables didactiques. Et c'est quoi une variable didactique? Comment on analyse ce que telle ou telle variation dans un énoncé peut faire dans une classe. Donc ça nécessite un approfondissement didactique, celui-ci. Bon, puis je ne passe pas en revue tous les éléments où la formation des formateurs est apparue dans le cours de l'action, dans le processus de rencontre des questions qui se posaient et souvent de construction, de co-construction de ces questions. Parce qu'on a une difficulté dans le travail de formateur, cette difficulté n'est pas automatiquement une question qui peut être travaillée, ça demande un travail. Et tout ça, ça a été rendu possible sur le temps, parce qu'il faut un climat de confiance, enfin tout ça on le sait bien, ce qui est valable dans une classe, ce qui est valable aussi dans un dispositif de formation de formateurs. Hein. Donc ça, c'est pour moi une première réponse. Dans tous les dispositifs de formation de formateurs que j'ai vus, j'en ai vu quand même pas mal, hein, c'est cette expérience longue sur 5 ans, 6 ans, où je me dis que là, oui, il y a eu une réelle progression des formateurs dont ils ont été eux-mêmes conscients, hein, et un travail des chercheurs qui n'a pas été seulement transmissif non plus, parce que les chercheurs ont beaucoup appris de ce qui se passait, et donc ça a permis aussi de progresser sur un certain nombre de concepts didactiques. Donc ça, c'est une première expérience. Alors, est-ce qu'elle est généralisable? On a sorti de cette expérience un CD-ROM qui va être publié par l'INRP d'ici la fin 2007, je vous en donnerai les références. Il est déjà publiable en ligne, où les formateurs dans la dernière année ont essayé de voir de mettre à distance leur propre parcours de formateur et de formation de formateur pour essayer de regarder ce qui pouvait être transmis à d'autres et sous quelle forme. Donc un travail réflexif sur cette formation de formateur. Alors l'autre exemple que je vais donner est un exemple qu'on essaie de travailler en ce moment à l'INRP. Il y a un site qui s'appelle EducMath, qui est un site de réflexion sur les problèmes posés par l'enseignement des mathématiques. Et la cible de ce site, c'est le public visé, c'est vraiment les formateurs en mathématiques, formation initiale, continue. Mais évidemment, il y a aussi des chercheurs en mathématiques, des chercheurs en didactique qui se retrouvent dedans. Et on essaie dans ce site de trouver des façons de traiter des questions importantes, qui sont ressenties comme importantes par les formateurs. La dernière question, par exemple, c'est une réflexion sur l'épreuve pratique de mathématiques au baccalauréat. Il y a une épreuve où les élèves sont censés fournir un petit travail de recherche. Et donc, ce n'est pas classique au baccalauréat. Et le professeur est là et peut donner un coup de main à l'élève en train de travailler. Donc, ça crée énormément de problèmes de formation des enseignants pour faire préparer les élèves à ce genre de choses. Hein. Donc, cette question a été formulée par un petit groupe, a été travaillée par des chercheurs. Et ensuite, on donne la parole à un certain nombre d'acteurs très différents, à un professeur qui a expérimenté ça dans sa classe, à quelqu'un qui a corrigé l'épreuve, à quelqu'un qui a organisé une formation là-dessus, à un chercheur en mathématiques, un didacticien, qui donne chacun des points de vue, et on essaie à partir de ça de retravailler cette question. Bon, puis il y a un certain nombre de questions qui ont été traitées, mais à chaque fois ça prend du temps, c'est des fois 2 mois, 3 mois d'échanges avec des gens qui organisent des questions, qui relancent les questions sur un forum. La première question qui a été traitée a été très intéressante, c'était quels ont été les résultats de la recherche sur l'enseignement des mathématiques depuis 10 ans qui ont été utiles pour les enseignants, pour les formateurs. Bon, donc c'est une question dont on peut discuter autour d'une table, mais là elle a été travaillée longtemps et à partir de tous les gens concernés et aussi principalement les gens qui sont censés utiliser ces résultats de la recherche. Donc, bon, je voulais donner ces exemples pour montrer cette idée de co-construction qui m'apparaît être la seule possible, le temps nécessaire pour faire ça, les dispositifs qui sont pas tout, qui sont pas donnés d'avance, qui doivent être construits, pensés, hein, avec tous les gens impliqués, et cette idée qu'on peut pas franchement séparer ce qui relève de la recherche dans la discipline, ce qui relève ensuite de la recherche didactique et de la recherche sur les dispositifs et les ressources. Lorsqu'on a fait en mathématiques. On est en train de le faire aussi dans la nouvelle équipe Eductis, dont Michel a évoqué l'existence tout à l'heure, avec un site qui s'appelle Eductis aussi, qui sera publié à partir, en ligne à partir de lundi prochain, qui voudrait, sur une question plus transversale au didactique, traiter aussi, être un outil pour traiter ce genre de questions et être participer à cette traduction que tu évoquais entre la recherche et la formation.
Je te remercie. Je vois certains indices que, avant même ma troisième question, Gérard voudrait réagir. Alors, il le peut.
Oui, vite fait, parce qu'en fait, finalement, ce que tu dis, ça, c'est un petit peu le complément et l'illustration, la démonstration de ce que je disais, c'est que tu as parlé de laboratoires de mathématiques qui étaient associés à des laboratoires de recherche en didactique des mathématiques. Et en fait, je pense que la solution, elle est là. Et ce que vous avez dit aussi, vous êtes dans une discipline dans laquelle vous avez des chercheurs didacticiens de la discipline. Et en fait, ce à quoi on est confronté en France, c'est un endroit dans lequel, pour les sciences fondamentales les plus dures, il y a une dissociation absolue, un cloisonnement totalement étanche entre ces disciplines expérimentales, essentiellement, les quatre disciplines expérimentales, et les recherches en didactique leur correspondant. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Canada, où justement, on a la même situation que pour les mathématiques en France. Et finalement, ce que j'ai exprimé, c'est cette différence de posture de la recherche qui fait que les chercheurs dans nos labos de recherche fondamentale en sciences expérimentales sont finalement tout seuls et n'ont pas à se préoccuper des soucis de didactique. Si vous allez dans les universités, pour reprendre aussi tes exemples concernant les TIC, vous allez dans les universités dans lesquelles des changements pédagogiques colossaux sont en train de se passer par introduction des technologies d'information et de la communication, vous avez 1, 2, 3, 4, 10% au mieux des enseignants qui sont dans cette démarche. Le reste va dans son amphi, fait son cours, puis s'en va de l'amphi, et ce sont d'autres personnes qui font les TD, etc. Donc je crois que cette différence, elle existe, et elle est probablement liée à une différence structurelle. Il n'y a pas de chercheurs en didactique à proximité des chercheurs en sciences fondamentales. Quelqu'un qui fait la couverture de Nature n'a pas trois bureaux plus loin celui qui est capable d'organiser un dispositif comme le tien. Et si on se met à demander des dispositifs de réflexion sur plusieurs mois à des chercheurs, là c'est fini, on n'aura plus de couverture dans Nature. Et je crois que bon, c'est un problème plus structurel qu'autre chose.
Bien, merci. Jean-Pascal, tu veux réagir aussi sur la même chose?
Ça dérape, on continue.
Non, je réfrène ma troisième question, mais pas jusqu'au bout. Ouais.
Non, mais moi, je pense que c'est pas un problème structurel. Enfin, le but du jeu, c'est qu'on soit pas d'accord. Donc, il me semble que c'est un problème institutionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, dans l'UFM, c'est encore plus compliqué. On n'est pas seulement enseignant-chercheur, mais on est enseignant-chercheur-formateur. Et on sait que ce qui compte dans la carrière, c'est pas d'être enseignant, c'est pas d'être formateur, c'est d'être chercheur. Et il me semble que là, si on règle d'une façon ou d'une autre ce problème, c'est-à-dire que le fait d'être formateur se soit aussi reconnu, la qualité de bon formateur pour un ancien chercheur soit reconnue, on avancera, je dirais, et ça empêchera peut-être pas, alors on le verra pas, hein, peut-être nous, mais plus tard, d'être dans Nature et puis dans la nouvelle revue pédagogique en même temps, le même mois, voilà. Et il me semble que ça renvoie aussi à des questions sur ce qu'est un bon formateur. Parce qu'effectivement, et c'est une question qu'on n'a pas réglée en 15 ans d'IUFM, je ne sais pas si on la réglera dans les IUFM intégrés dans les universités. On est tous formateurs et tous égaux, comme disait Coluche, il y en a qui sont plus égaux que les autres. Mais on n'a pas des statuts, on a des statuts différents, et je trouve quand même pour moi un gâchis immense de ne pas avoir su tirer parti des différences, si ce n'est en complexant les uns, soit de supériorité, soit d'infériorité, ça dépend d'où on se trouve, les uns et les autres, par rapport à un statut idéal qui est celui d'être enseignant-chercheur. Donc, il me semble que c'est... Enfin, tant qu'on n'avancera pas sur cette question de dispositif et de lieu, justement, j'ai cité tout à l'heure, où les enseignants-chercheurs peuvent rencontrer des enseignants qui cherchent et se questionner mutuellement, on n'avancera pas. Et pour ma part, actuellement, là je vous livrerai peut-être un sentiment plus personnel, je suis un petit peu inquiet sur la tournure que prennent les événements, dans la mesure où j'ai vent que dans les IUFM, un certain nombre d'IUFM qui intègrent, on restreigne justement les lieux qui existaient d'équipes recherche, action, formation qui existaient jusqu'alors. Alors je ne sais pas comment ça se... Enfin, en tout cas, mon vécu me font craindre un retour hanté, même pas 89, encore avant.
Non.
Bon.
Oui, je t'arrête, hein. Il ne faudrait pas que tu démoralises l'ensemble de l'assistance. Donc, je pose ma troisième question qui porte sur la place, Luc Trouche l'évoquait tout à l'heure, la place et le rôle des outils dans la médiation. Luc, tu veux commencer ?
Alors, c'est une question très vaste parce que qu'est-ce qu'un outil ? On peut parler d'outils de communication, de diffusion, de mutualisation, d'indexation. Tous ces outils existent, évoluent beaucoup. Alors, je vais répondre par deux choses. D'abord, sur un point de vue sur les outils, déjà, où on se situe dans notre équipe, dans une orientation qui est celle bien illustrée par Abar Dalipastré, où les outils ne sont pas donnés. Et puis, ce qui est important, c'est de construire des instruments à partir des outils, et cette conception, elle se fait en intégrant les usages. Hein. Donc, dans ce qu'on va mettre en place, on va utiliser les outils, mais en sachant que une fois que les outils sont donnés, quasiment tout est à faire, et il va falloir penser des dispositifs pour que ces outils soient vraiment produisent ce qu'on veut vraiment qu'ils produisent. Et puis, on le fera en ayant toujours l'idée que on doit bien regarder quels sont les usages, parce que ce sont de ces usages-là qu'on va tirer un réel enrichissement des outils, une réelle construction des instruments de la formation. Alors, bon, on pourrait dire beaucoup, mais je vais peut-être donner simplement un autre exemple aussi, qu'un exemple en cours, qui est une réponse de l'INRP à un appel d'offres national, appel d'offres performance, que vous connaissez peut-être. Performance, c'est un dispositif proposé par la SDTIS qui est basé sur une conception collaborative de ressources, mais à un niveau un peu supérieur. Ces ressources sont des parcours de formation. Donc on demande à des formateurs de concevoir des parcours de formation, mais que d'autres vont utiliser, que d'autres formateurs vont faire. Donc c'est des ressources, concevoir des ressources pour les formateurs. Alors on a fait une réponse à plusieurs niveaux. On va en effet proposer des parcours de formation, mais qui vont être conçus comme des germes de parcours, non pas des parcours tout faits. Voilà, j'ai un problème d'outils, mais bon, ce ne sont pas des parcours tout faits, mais qui vont être à compléter par les formateurs qui vont s'en emparer. Il y aura des parcours en mathématiques, en géographie et en géologie. Bon. Et dans cette conception de parcours, on va le faire pendant tout un an. On va essayer de voir quels sont les outils qui peuvent être éventuellement utiles pour les formateurs. Puis ces parcours seront mis en ligne sur une plateforme nationale. Et on proposera tout un travail en ligne avec les formateurs qui vont prendre ces parcours dans telle ou telle académie, pour essayer de voir comment ces parcours sont transformés, enrichis par les formateurs qui vont les mettre en place, quelles questions ça leur pose. Parce que quand on a affaire à une ressource que d'autres ont fait, ça pose forcément des questions. En quoi ces questions peuvent donner lieu à formation? Et l'INRP organisera probablement si le service en est d'accord, en 2008-2009, une formation pour les formateurs qui ont repris ces parcours de formation. Et puis en fin d'année, on essaiera de reprendre les différents parcours avec les différents acteurs qui s'en sont saisis, pour voir comment, de toutes les expériences différentes qui ont été construites, on peut faire un parcours différent, peut-être plusieurs parcours. Hein. Donc, c'est une réflexion sur une formation à distance de formateurs, mais à partir de premiers germes d'éléments pour alimenter leur pratique. Et ensuite, tout au long de la mise en œuvre de ces ressources de formation pour les formateurs, une intervention en ligne, où on verra sous quelle forme, permettant de répondre au fur et à mesure et de contribuer à cette formation de formateurs dans le feu de l'action. Hein. Alors ça me semble intéressant, parce que je crois que les formations que nous faisons, enfin que tout le monde fait, hein, des formations de formateurs très loin du lieu d'exercice de ces formateurs, sous la forme de deux jours, trois jours, même de trois jours éloignés dans l'année, les outils de communication dont on dispose aujourd'hui peuvent permettre d'envisager autre chose. Hein, et donc d'envisager une formation de formateurs au plus près de là où ils sont impliqués, c'est-à-dire le formateur étant dans son action propre de formation. Et là, d'envisager les dispositifs qui permettent, à distance et aussi en présence, d'alimenter cette formation et de former le formateur en action. Donc, c'est différents temps que les outils permettent, et ça me semble, pour l'INRP en tout cas, une question essentielle à travailler en relation avec les acteurs des académies impliquées dans la formation de formateurs.
Donc, oui, si on résumait très vite, une série d'allers-retours et puis un effort pour cumuler les choses et pour capitaliser.
Oui, l'idée d'une formation continue de formateurs.
D'accord. Jean-Pascal.
Alors sur la question des outils, bon, ce que j'ai dit sur les méthodologies de recherche plutôt compréhensives, inspirées de l'ethnométhodologie, enfin, présuppose un certain nombre d'outils. Et donc, simplement, il me semble que les recherches qui, en sciences du langage qui ne s'intéressent pas forcément à la classe ont des outils de recherche à proposer, à apporter pour l'ethnométhodologie de la classe qui existe par ailleurs. Mais je crois que ce qui est important, c'est que ces outils ne peuvent pas être utilisés. Alors le collègue disait on doit construire ces outils. Je pense qu'on peut pas on les construit jamais à partir de rien. On les construit toujours à partir d'un cadre théorique de recherche qu'on s'est donné. Il me semble que ce qui est important aussi, si on emprunte aux disciplines qui contribuent à la didactique d'une discipline, il y a une opération très importante qui me semble être de décontextualiser les outils pour les recontextualiser à la classe. Et bon, je vais prendre comme exemple l'analyse conversationnelle. L'analyse conversationnelle telle que les modèles, par exemple les Genevois nous la proposent, pour ceux qui sont un petit peu du domaine, ce sont des modèles, très simples, ou en tout cas beaucoup moins complexes que ce qui se passe dans une classe, parce qu'en général, c'est plutôt des conversations à deux, plus rarement à trois, c'est même parfois des conversations homme-machine, et il y a nécessairement un travail de recontextualisation de ces outils, de discussion de ces outils, pour les éprouver, les adapter de manière à, pour qu'ils soient utiles, je dirais, dans ce que l'on va chercher dans la classe. Alors, je reviendrai à un autre outil qui me semble important et qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le langage. Alors, je vous en parle parce que je suis en sciences du langage. Le langage, c'est un outil cognitif supérieur, très très puissant, mais terriblement banal. Et je crois qu'il faut justement débanaliser cet outil. Ce que disait notre collègue Astier tout à l'heure, le langage, c'est un outil de représentation, qu'il soit oral ou écrit. C'est un outil de représentation qui peut du coup devenir outil pour apprendre, pour faire le point sur ce que l'on sait. Donc le fait de rédiger un compte-rendu d'un travail de recherche, un mémoire, ça amène à sélectionner, synthétiser, reformuler, réécrire même l'histoire. On ne va pas raconter forcément les choses dans l'ordre où elles se sont passées. On va très certainement pas raconter ce qui s'est passé, mais ce qu'on croit s'être passé, ce que l'on a vu de ce qu'on croyait s'être passé. Enfin bon, il y a tout. Le langage est tout sauf transparent. Hein, il est opaque. Et puis, ça permettra aussi de penser autrement. C'est-à-dire, ça va permettre aussi le langage et l'écriture de rendre objectivable et partageable une expérience et un outil et une idée, une conceptualisation. Donc, il me semble que écrire, c'est dans le cadre d'une recherche, apprendre, penser autrement et aussi donner du sens à ce que l'on a fait ou ce que l'on fait, un peu dans le sens où on va réécrire l'histoire. Et il me semble que, autant pour l'histoire, c'est peut-être condamnable et même certainement condamnable de réécrire certains faits historiques, ça peut être intéressant dans le cadre de la recherche parce que ça permet aussi de donner toute la place à la subjectivité forcément inhérente aux questions de didactique et de pédagogie.
Merci à toi. Gérard.
Alors, côté outils, j'ai compris la question de façon outils numériques. Là aussi, c'est pareil, une obsession. Je suis tombé dedans. Et en fait, une partie de ma vie cachée, c'est que je suis aussi expert auprès de la SDTIS pour un cinquième de mon temps. Et justement, j'allais parler, et tu l'as fait avant moi, de cette initiative performance. Mais avant ça, je voudrais dire que lorsqu'on réfléchit aux outils numériques, pour moi, il y a deux gammes de questions. La première gamme de questions, c'est quel type d'outils on peut utiliser et d'un autre côté, ce qu'on veut en faire. Alors, ce qu'on veut en faire, de façon très simple, je pense que face à des outils numériques, il y a trois niveaux possibles. Le premier, c'est un niveau simplement de ressources. C'est-à-dire que j'ai un outil qui me permet de mettre à disposition de la ressource. Et ça, c'est quelque chose où finalement, on produit, on met en jachère et puis on attend que ça évolue. Le deuxième niveau est un niveau un petit peu plus compliqué, c'est un niveau d'accompagnement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai produit une ressource, je ne la laisse pas en jachère, j'organise autour de cette ressource du travail collaboratif, j'organise de l'adaptation de cette ressource, l'évolution de cette ressource, pour arriver finalement à la servir de façon personnalisée à celui que je veux former. Et ce type d'outil, justement, ce que tu disais sur la transposition en classe, est parfaitement transposable, puisque dans beaucoup de classes, maintenant, il y a des équipements numériques qui permettent d'arriver à ce type de travaux. Et je crois que le niveau ultime, c'est le niveau de formation. C'est-à-dire que j'ai eu une ressource, j'ai accompagné cette ressource et je fais plus que ça. C'est-à-dire que je vais au-delà de cette ressource pour m'assurer que l'individu qui est en face ou à côté ou à l'autre bout de la ligne s'est approprié cette ressource et a été capable de l'intégrer dans sa base de connaissances personnelles. Et donc ces trois niveaux induisent des usages finalement très différents et ça amène au problème que l'on se pose sur les types d'outils. Et je crois que l'une des différences majeures que l'on peut avoir, c'est ce qui se passe entre une ressource et un logiciel en classe. Et l'équipe que j'ai dirigée pendant quelques années, l'une des équipes qui portait le plus de logiciels utilisés en classe, hein, au moins au lycée pour l'enseignement des sciences, c'était l'équipe Access, avec des logiciels comme Phylogène, Anagène, Rastop, etc., qui sont connus de tous les enseignants de SVT. Et on s'est rendu compte que finalement, ces logiciels étaient devenus quelque chose de patrimonial. Et autour de ces logiciels, de ces outils, qui sont simplement des logiciels purement techniques, s'était construit toute une famille d'usages. Le premier niveau de ces usages était des usages en classe, où on essayait de respecter le programme en utilisant un outil numérique. Mais c'est pas tout. Il y avait aussi des usages collaboratifs entre enseignants qui s'étaient mis en place pour savoir comment j'utilisais l'outil et mutualiser mes pratiques. Et il y avait même un troisième niveau qui s'était mis en place et qui était un niveau collaboratif autour de l'alimentation en données de ces outils. Et donc, dans un cas comme ça, où on a un logiciel qui est apte à transmettre une connaissance, à fonctionner convenablement en classe, à mettre en place des usages de la part des enseignants, on peut arriver à avoir quelque chose qui finalement traverse la totalité du système éducatif, depuis le chercheur jusqu'au formateur, de façon horizontale de celui qui s'occupe de la pédagogie jusqu'à celui qui met la science dedans. Et je crois que ces exemples sont vraiment de très beaux exemples d'intégration d'outils numériques dans l'éducation. Il y a un autre aspect qui me fait un peu plus souci, ce sont les initiatives qui se font autour des environnements numériques de travail dont vous avez forcément entendu parler. Et ces environnements numériques de travail, d'après moi, sont en train de suivre un chemin un petit peu tortueux et assez malheureux, parce que au départ, ils avaient été conçus par des gens qui réfléchissaient à un changement pédagogique, à une évolution de la place de l'enseignant, de son travail, de ce qui pouvait se passer dans une classe et dans la transmission des connaissances. Et on se retrouve confronté à quelque chose qui est devenu un outil de diffusion d'informations administratives, de collaboration entre les différents services administratifs pour s'occuper des enseignants. Et je suis un petit peu inquiet, donc je tenais à vous alerter. Un ENT, c'est pas seulement un outil administratif, c'est aussi, je pense, un très bel outil pédagogique, mais ça ne peut l'être qu'à condition que ceux qui savent faire y s'y mettent. Et je pense que nous avons collectivement une carence sur ces choses-là. Et on est en train de nous voler un outil numérique pour l'éducation qu'on transforme en un outil numérique pour l'administration. Et ça me fait un peu peur. Ensuite, le dernier point, c'est que vous avez tous des enfants ou des petits-enfants ou des cousins, des neveux, je sais pas, qui se sont jetés à corps perdu dans ce qu'on appelle de façon dissimulée le Web 2. Ils se sont mis à avoir 36 blogs, à collaborer dans 25 espaces ouverts, à avoir 3 wikis. Et on se rend compte que finalement, ils apprennent des choses au travers de ces outils numériques. Et nous ne nous sommes pas appropriés ces nouveaux outils. Et j'ai été très étonné, hier j'étais à un colloque national justement sur les chaînes éditoriales. Et je me suis rendu compte que dans l'enseignement supérieur, il y a des universités qui commencent à s'approprier ces outils pour leur enseignement. Du style, le prof ne fait plus cours, il arrive et il donne le texte d'un sujet, il répartit les élèves en groupe et il leur demande à ses étudiants de construire la partie du cours A, la partie du cours B, la mettre sur un blog commun. Et ensuite, tout le monde va sur le blog, commente. Tu parlais de co-construction tout à l'heure. On est complètement, tous les étudiants, finalement, co-construisent leur cours en utilisant ces nouvelles facultés que fournissent les outils numériques. Donc ça, c'est quelque chose, je crois, sur quoi il faudrait jeter un coup d'œil, parce que nous ne profitons pas, nous sommes en retard par rapport aux enfants qui sont dans nos classes, et ils sont allés plus vite que nous sur ce coup-là. Et donc le dernier point, je voulais aussi parler de la SDTIS et de son initiative performance. Je crois effectivement qu'on a là quelque chose qui est la volonté de mettre au niveau national, de mettre en partage finalement pour tous les enseignants, tout le corps enseignant, qu'on soit formateur ou qu'on soit simple utilisateur, un outil qui permet de construire des parcours de formation. Et comme le disait Luc, le formalisme est très ouvert et permet probablement à tout le monde d'aller essayer de faire quelque chose et de voir comment il peut contribuer ou tirer profit de cet outil. Et je voudrais aussi parler du C2I, qui est aussi quelque chose qui est fait dans la sous-direction à laquelle j'appartiens. Parce que lorsqu'on parle d'outils numériques, je crois qu'on arrive à la culture numérique. Et c'est pas un hasard que l'INRP ait choisi d'appeler un de ses programmes culture numérique. Je crois qu'on ne peut avancer avec des outils numériques que si l'on est placé, suffisamment positionné dans une culture numérique qui permet de bénéficier de ces outils. Et le C2I, et alors j'ai entendu ce qui a été dit sur la certification tout à l'heure, effectivement je pense qu'il y a des réflexions à avoir sur les listes de compétences qui ont été mises dans ce C2I. Mais au-delà de ça, je crois quand même que c'est un instrument qui permet de faire que le formateur possède la culture numérique, la transmet à celui qui est formé, en espérant que celui qui est formé va aller l'installer à l'endroit où on en a besoin, c'est-à-dire l'établissement d'enseignement. Donc là aussi, je voudrais attirer un petit peu cette attention sur un certificat qui n'a pas forcément bonne presse, mais qui, je pense, a un rôle. Voilà.
Merci à vous trois. Il nous reste une dizaine de minutes, donc nous sommes preneurs de vos questions.
J'ai été très interpellée par le modèle de co-construction ou de co-création autour d'un outil numérique, d'un logiciel, mais il me semble que c'est pas un modèle qui peut fonctionner tout le temps et qu'il ne peut être profitable qu'en alternance avec des moments plus transmissifs. Il me semble que la créativité à laquelle il fait appel a besoin souvent d'être nourrie en amont et qu'on ne peut pas créer ex nihilo et qu'il y a un certain nombre de temps qui doivent précéder et qui doivent peut-être être plus de l'ordre de l'assimilation de quelque chose qui serait transmis. Est-ce que je me trompe ?
Qui répond ?
Alors, ce que j'ai cité, vous pouvez aller le voir, c'est ouvert en accès public, c'est l'Université de Lyon 1. Ce sont les cours qui concernent le Web 2. Vous pourrez aller voir. Alors, effectivement, je pense que vous avez raison. D'abord, je vous remercie de dire que je ne suis pas transmissif. C'est rare qu'on me dise ça, donc j'en profite. Je crois que vous avez raison parce qu'en fait, ce qui peut être fait en co-construction par les étudiants, il y a d'abord la première chose, c'est qu'ils rentrent dedans parce qu'il y a un très fort aspect technologique qui leur plaît beaucoup. Ils ont construit le cours, grosso modo, ils ont fait du YouTube. Sincèrement, ils ont pris une webcam, ils se sont filmés et vous avez une succession d'éléments filmés avec une illustration et un peu de texte derrière. Donc il y a eu un aspect très technophile qui a fait qu'ils y sont allés parce que effectivement ils pouvaient parler, ils pouvaient utiliser des nouveaux médias. Mais ce qui s'est passé avant, c'est que nécessairement, par exemple, il y avait la première question, c'était définition du Web 2. Et le premier chapitre concerne qu'est-ce que le Web 2. Et forcément, ces étudiants ont lu, ont écouté des conférences, sont allés assister à des cours qui parlaient du Web 2. Et c'est ensuite qu'ils ont pu reconstituer quelque chose qui leur appartenait sur le Web 2. Et en fait, je pense que là, on est dans une situation où on se demande, est-ce que le cours sur le Web 2, le cours magistral sur le Web 2 est utile? Est-ce qu'il suffit de regarder l'Internet, de lire quelques bouquins, quelques articles, et je suis capable de faire le Web 2? Ou est-ce que, au contraire, j'ai besoin de passer par un temps où j'ai forcément une transmission par quelqu'un? Et je crois que là, la question est vraiment ouverte parce qu'on démarre sur des choses comme ça. J'ai pas de réponse à vous donner. J'aimerais savoir justement comment ça évolue.
Oui. Non, mais il faut savoir de quoi on parle. Parce que si on parle de l'enseignement aux étudiants, c'est une chose. Si on parle de la formation des formateurs, c'est autre chose. Et très, très franchement, pour la formation des formateurs, pour moi, le modèle transmissif, bon, c'est pas, je retire mon accusation parce que, mais c'est bien de critiquer, de comment caricaturer les gens. Le modèle transmissif ne marche pas du tout. Et si on veut faire une formation de formateurs réelle, c'est à partir des questions que ceux-ci rencontrent. Et pour moi, ça, c'est un point très fort. Si vous voulez, par exemple, répondre, enfin, il y a une formation qui est indispensable sur les questions d'indexation de ressources pour les formateurs. Bon, si on dit on va faire un cours sur l'indexation des ressources, bon, je pense que devant n'importe quel, enfin, devant la plupart des auditoires de formateurs, ça n'aura pas un franc succès. Par contre, si ça apparaît comme une nécessité ensuite, parce qu'il faut ranger des ressources, les partager, en concevoir d'autres, et à ce moment-là, l'indexation a un sens. Vraiment un cours sur l'indexation pour des raisons pratiques, parce qu'il y a des choses qui sont faites au niveau international, mais aussi pour des raisons de formation même, parce que réfléchir sur l'indexation, ça va interroger les ressources déjà produites. Donc vraiment, sur ces questions de formation de formateurs, la co-construction me semble un mot clé, et la réponse, l'apport recherche aux questions suscitées par le travail propre des formateurs. Mais qu'il y a des moments où cette partie d'apport est forte, c'est certain.
Oui, bonjour, Denis Loison, UFM de Bourgogne. Ce ne sont pas des questions, simplement quelques remarques à partir de vos propos en trois points. Premier point, vous avez évoqué, me semble-t-il, à un moment donné, des lieux où pouvaient se dérouler ou se déroulent déjà des articulations fortes entre recherche et formation de formateurs. Et ça a été évoqué par Jean-Pascal Simon. C'est effectivement toutes les recherches collaboratives qui sont menées dans certains UFM sous des appellations très diverses, soit sous des appellations de recherche collaborative, sous les appellations de groupes de recherche et formation, des recherches d'investigation. Il me semble que là, il y a des lieux, donc des espaces et des temps où se déroulent des échanges très fructueux d'un point de vue collaboratif entre chercheurs et formateurs et qui produisent des effets importants chez les formateurs. Donc ça existe déjà, et je ne sais pas moi aussi si ça va durer. Deuxième point, sur ce qui me semble pouvoir intéresser les formateurs, et par là développer ou contribuer à développer le rapport à la recherche, c'est me semble-t-il au moins 3 ou 4 points que vous avez déjà évoqués. Je les reprendrai. C'est d'une part les outils conceptuels, et on a vu ce matin dans une précédente conférence combien certains concepts pouvaient nous éclairer pour comprendre un petit peu ce qui se passait dans l'action ou dans l'activité des sujets. Deuxième élément, vous les avez évoqués peut-être un peu trop brièvement, mais ce sont aussi les outils méthodologiques dont peuvent s'emparer un certain nombre de formateurs pour monter des dispositifs de formation ou mettre en place des situations de formation. Troisième point, les formateurs s'emparent également des résultats de certaines recherches. Alors, en fonction des disciplines, des connaissances des uns des autres, eh bien, les résultats ne sont pas perçus de la même façon, mais c'est important. Et puis, vous avez évoqué dans un quatrième temps les démarches. Hein, la démarche du chercheur en termes de problématisation, création d'outils, adossement théorique, donc qui reprend ces trois éléments précédents. Enfin, dernier point pour répondre à la question posée par Gérard Vidal. Il me semble qu'il n'y a peut-être pas d'interface à créer, mais peut-être une formation pour les chercheurs à mettre en place si on veut qu'effectivement les résultats de la recherche puissent passer. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça nous engagerait peut-être dans un trop grand débat.
Merci.